Que feriez-vous si, par une nuit d'automne glaciale, un jeune migrant totalement démuni tombait dans votre jardin? Pour François Nicolas, sa femme et leurs enfants, la réponse a été évidente. Un soir d'octobre 2018, ils ont recueilli Tierno, un jeune Guinéen débarqué dans leur ville de Nantes après un périple d'une incroyable dangerosité. Ils l'ont ensuite hébergé chez eux pendant un an, tout en se démenant pour lui trouver un cadre où il serait formé. Ce cadre, c'est à Apprenti d'Auteuil qu'ils l'ont trouvé, plus précisément sur le site du Château des Vaux, en Eure-et-Loire, où Tierno apprend aujourd'hui la plomberie. Cet épisode, enregistré au printemps 2021, vous livre les regards croisés de Tierno et de François sur cette extraordinaire expérience qu'ils partagent. Je suis Amélie Dagg, bienvenue dans Human le podcast et bonne écoute.
Je m'appelle Kamara Kerr Mohamed, j'ai 18 ans, je viens de la Guinée-Conakry, précisément à Bouaké, ma ville natale. Je suis arrivé en France en 2018, le 30 octobre 2018.
Je me nomme François Nicolas, j'ai 65 ans, je suis nantais. J'ai cessé mon activité professionnelle il y a 2 ans. J'ai été chef d'entreprise pendant près de 35 ans. J'ai perdu ma femme il y a 16 ans et me suis remarié il y a 10 ans. Nous avons ensemble 5 enfants, dont 2 vivent en couple et 3 petits-enfants. Donc ça fait déjà une petite tribu. Je suis bénévole depuis 14 ans au sein d'une association française qui œuvre au Cambodge.
Quand je suis venu en France, je suis rentré à Nantes. Je ne connaissais personne. Moi, c'était vers 23 heures presque. J'ai rencontré la femme de François, son fils, qui s'appelle Victor. Du coup, je l'ai salué très bien. Je lui ai dit, je cesse l'hôpital, le grand hôpital de Nantes. Mais d'attendre, je vais t'accompagner.
Il a fait l'hôpital, ça ressemble... Il n'a pas pu, il l'a ramené chez lui, donc voilà, c'est le premier beau geste. Il l'a nourri, il l'a lavé, il l'a habillé, puis il s'est dit, maintenant, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Donc, comme il ne pouvait pas le remettre à la rue, il ne savait pas quoi en faire, il a appelé sa mère, et puis on l'a récupéré chez nous.
C'est comme ça que je suis rentré dans leur famille. Ce que j'ai ressenti, quand il m'a dit de partir chez lui, d'abord j'ai prié dans mon cœur, j'ai dit, ben Dieu merci. Quand il m'a dit de partir chez lui, ça m'a soulagé un peu. Ça m'a soulagé.
L'urgence, c'était de l'héberger, de le nourrir, le protéger, le soigner, l'aider dans ses démarches. Alors, on n'a pas fait ça tout seul, hein, avec l'aide d'amis, enfin, on a porté l'essentiel, mais membres de la famille, on a fait tout ça. Bon, à terme, le plus important était de lui donner accès à l'école, à une formation professionnelle. Ben, c'est Apprenti d'Auteuil qui a été le canot de sauvetage qu'on espérait. Bon, c'est un moment à Nantes, il y a eu un afflux énorme de migrants et c'est le moment où la météo n'est pas bonne. Et ils étaient dans la rue, Nantes est une ville où il n'y avait pas eu énormément de mouvements. Et puis bon, pour des raisons que j'ignore, tout d'un coup il y a eu un afflux massif. Donc on était assez perturbés de voir tous ces jeunes qui étaient en plein centre, qui étaient désœuvrés. Enfin, qui avait faim, qui avait froid, il y avait des assos qui distribuaient des repas comme ça dans la rue. Et donc, on se disait, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi, avec ma femme. Mais quoi, on savait pas. Donc, déjà, merci, il est tombé chez nous. Il nous a forcé à agir, à pas rester dans le discours. Mais au moment où ça tombe, où on se dit, maintenant, c'est plus le discours, faut y aller, ben, c'est pas si simple parce qu'on perçoit pas tout ce qu'il va falloir engager de temps, d'énergie, mais on sent bien que ça va plus être tout à fait la même vie, quoi. J'avoue, lâchement, on aurait bien continué le discours en tournant la tête un peu sur le côté. Mais là, fallait y aller. Et alors, Tierno, quand on récupère, bah, il arrive, il a des problèmes de santé, des trucs lourds, des trucs contagieux. il a des déceptions, il ne sait pas encore l'exprimer, mais il a des déceptions énormes. Dans ce trafic humain, là, des passages et des grands voyages, on lui a vendu l'idée qu'en arrivant en France, il serait footballeur professionnel. Alors, il a un bon coup de patte, mais ce n'est pas si simple, quoi. Et donc, il est arrivé dans un pays, en plus, il arrive dans un pays, on ne l'attend pas. Et ça, on ne lui a pas dit. Donc, des déceptions énormes. Il n'a plus de projet, puisqu'il ne sera pas footballeur professionnel, il n'a plus d'espoir. Il avait des angoisses qui étaient liées à son voyage, notamment la traversée maritime du Maroc vers l'Espagne. Donc, c'était, il faisait des cauchemars la nuit. Il dormait par terre. Il a mis du temps à s'adapter à un matelas. Il serait plus facilement lavé. Alors là, c'est le gap du mode de vie. Il serait plus facilement lavé dans une bassine que dans la douche. Il a fallu qu'on lui apprenne à vivre avec nos moyens et notre confort moderne. Il arrivait d'une autre planète. Il est tombé dans un état de dépression, mais vraiment profond. Donc, il a fallu de l'accompagnement médical. Le psychologique, ben, c'est nous. On a fait du mieux qu'on pouvait pour le rassurer. Un choc des cultures. Un gars qui peut même pas dormir sur un matelas, qui arrive en fait de la campagne, hein, de Guinée, qui se baigne dans le fleuve. Il y a l'hippopotame qui remonte de temps en temps. Et il se retrouve dans une grande ville. On peut même pas percevoir tout ce qu'il a ressenti, mais je pense qu'il a... Tout était hostile pour lui. Et puis, il avait aussi je pense qu'il les a encore, mais qu'elle ne le paralyse plus, des croyances, des choses qu'on a perdues dans nos pays, et tant mieux, on vit mieux sans. La sorcellerie, les mauvais esprits, l'influence des esprits. Quand je dis ça paralysait, il y avait toujours une raison pour ne pas faire, pas bouger, qui était liée à ça. Et ça aussi, il a réussi, alors là, tout seul, hein, en regardant, il a réussi à le vaincre. Une des premières questions qu'il m'a posées, ça je m'en souviens, c'est « Pourquoi la France est si riche ?» Et il me dit « Est-ce qu'il y a du pétrole, de l'or, des diamants ?» Il ne pouvait pas imaginer qu'un pays puisse avoir de la richesse autrement que tirée de son sol. J'ai essayé de lui faire comprendre que la richesse dans nos vieux pays venait du niveau de formation et du savoir intellectuel et collectif, c'est-à-dire la capacité qu'on a en plus à mettre en commun notre savoir pour développer des projets. C'est abstrait, ce truc. On vit, même un gamin un peu éduqué chez nous, au fond de lui, il le sait, il le sent, il le perçoit. Donc voilà, c'est un martien qui est arrivé chez nous.
Hein. C'est ma maman qui m'a élevé. Ma maman, j'étais vers l'âge de 16 ans, quand j'ai perdu ma maman. Et puis, moi, j'ai pas rêvé un jour pour sortir en aventure. C'était pas dans mon projet même, parce que j'étais seul pour ma maman. Je ne pouvais pas la quitter comme ça. Du coup, comme elle est décédée, il n'y avait personne qui pouvait me soutenir pour mes études. J'avais mon oncle dans la capitale de la Guinée. Quand ma maman est décédée, je suis parti à Conakry pour dire à mon oncle s'il puisse m'aider de rester à Conakry, de quitter Abogé, de venir à Conakry pour rester, pour financer pour moi, pour mes études. Ben, il m'a dit qu'il ne peut pas, qu'il veut sortir en aventure. Si je veux le suivre, là par contre, on peut partir ensemble. Il m'a donné le courage, il m'a dit, actuellement, il y a tes générations qui sortent en aventure, toi aussi tu peux sortir, on y va, il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça qu'il m'a encouragé. Du coup, moi aussi, je l'ai suivi.
Il y a eu parfois des tensions, mais des deux côtés, par incompréhension mutuelle. Ben nous, il nous a fallu du temps pour comprendre, il lui a fallu surtout, non à lui, enfin, les deux, du temps pour comprendre que ce monde ne changerait pas pour lui et qu'il devrait s'adapter, qu'il allait lui faire des efforts pour développer des connaissances. Par exemple, l'école, pour lui, je pense qu'il a changé, si j'ai des bonnes notes, et que le prof est content, ça suffit. Mais le savoir, engranger du savoir et progresser, il n'y arrivait pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il a passé le cap. Mais donc, ça part à lui, qui devait être acteur de sa vie, en fait. Il était assez passif, quoi. Hein, il subissait les événements. Il devait aller vers les autres. C'est un garçon timide et très réservé. Ça fait plaisir de le voir aujourd'hui comme ça, épanoui Il avait l'impression que pour s'intégrer, il suffisait d'avoir des papiers. Donc, si on régularise mes papiers, tout est réglé. Bah, l'intégration, c'est pas qu'un problème de papier à régulariser. C'est des efforts au quotidien. Et puis, il avait peur, en faisant des efforts pour vivre dans la société française, de perdre ses racines. Il l'a pas exprimé clairement, mais je le sentais. Il est guinéen et guinéen soussou. Soussou, c'est une des ethnies majoritaires, mais c'est une petite ethnie. Et ils vivent entre eux. En France, on n'a pas ce choix-là, quoi. On est français, on est même européen aujourd'hui. Et donc, il avait peur en étant, pas en devenant français, mais en intégrant un peu plus notre culture, il avait peur de perdre ses racines. Bon. Et puis, nous, de notre côté, on n'a pas toujours compris les efforts que ça lui demandait, tout ce que ça lui coûtait, la souffrance que ça pouvait générer. Donc, on était parfois un peu impatients et agacés. Mais bon, on a grandi ensemble, hein. On a fait ensemble des efforts et on est ravis de cette histoire. Voilà. Il y a eu une période, les 2-3 premiers mois, il s'enfermait quasiment dans sa chambre. On avait dû. Il sortait, mais il savait pas ce qu'il fichait dans ce pays, quoi. Puis on l'a vu reprendre confiance en lui et puis sourire. On lui a donné du temps et puis pas que du temps. Il y a eu des efforts qui paraissent simples, mais hein, il mange pas comme nous. C'est pas il mangeait pas comme nous. Il ne mange pas comme nous. C'est tout bête, mais ça complique l'organisation logistique. Donc ferme nos repas ensemble, en mangeant pas les mêmes choses, il y a la période de Ramadan. Donc voilà, c'est comment l'intégrer dans notre vie sans violence. Et, bon, ça pas. Oui, il a fallu du temps, il a fallu de la patience, il a fallu ce qui nous a semblé être des concessions qui en sont pas véritablement, mais qui coûtent. C'est des efforts en tout cas.
C'est très très différent, oui. La culture, la manière de manger. Entre vous, à table, nous, on ne connaissait pas la magie à table, on ne connaissait pas ça. On mange dans un grand bol ensemble, on mange avec la main. La manière de vivre, en fait. Moi, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile pour moi. Pour adapter ça, c'était pas facile. Mais du coup, ça va, maintenant ça va. Maintenant, je me suis adapté.
Peut-être que si j'avais pas déjà été engagé dans PSE, j'aurais pas pu intégrer ça. Je vais faire court, mais lorsque j'ai perdu ma femme, il y a 16 ans, j'ai souhaité donner plus de sens à ma vie, hein, que je n'étais que chef d'entreprise. Et ça me remplissait pas. Ça m'occupait beaucoup, mais ça me remplissait pas. Et j'ai découvert Pour un sourire d'enfant en assistant à une conférence. J'ai été séduit. C'est une association pragmatique, efficace, transparente. Je pouvais être utile, ils m'ont fait confiance, j'ai signé. En plus de la certitude d'être utile, Pour un sourire d'enfant m'a permis de faire de très belles rencontres et j'ai jamais regretté cet engagement. La mission Pour un sourire d'enfant, c'est de sortir les enfants au Cambodge, hein, essentiellement à Phnom Penh, les plus pauvres parmi les pauvres de l'extrême misère, et de les conduire à un métier, à une vie digne. L'histoire démarre il y a 25 ans. Christian et Marie-France Despalières, les fondateurs, qui étaient de jeunes retraités en mission humanitaire à Phnom Penh, au Cambodge, découvrent un spectacle insoutenable. C'est un truc inimaginable. Une décharge à ciel ouvert où vivent et travaillent des centaines, voire des milliers d'enfants qui se nourrissent de déchets et risquent leur vie tous les jours. Choqués, Julie, c'est des gens qui ne sont pas faits comme nous. Hein. Choqués, ils décident immédiatement de faire quelque chose pour répondre à la demande. Et la demande des enfants, c'était... Alors, toujours, c'est « De quoi avez-vous besoin ?» hein, c'est pas « Qu'est-ce qu'on pense faire pour vous ?» C'est « De quoi avez-vous besoin ?» Et les gamins, ils demandent un repas par jour, aller à l'école. Et puis, ben voilà, ben, ils ont vendu leurs biens, ils se sont installés là-bas, ils ont rameuté leurs amis. Et aujourd'hui, c'est près de 7000 enfants qui sont scolarisés et qui reçoivent une éducation complète. Quand je dis complète, c'est qu'ils sont nourris, soignés, parfois logés, protégés, parce qu'il y en a qui vivent dans des conditions de violence extrême. Plus de 20 formations professionnelles ont été développées en interne et sont à leur disposition selon leurs aptitudes et leurs souhaits. Et tous trouvent un emploi correctement rémunéré au terme du parcours. Et un parcours, quand on prend en charge alors c'est une famille complète, c'est 10 à 12 ans. Parce qu'on prend des gamins qui ne sont jamais allés à l'école et il faut les emmener jusqu'à la formation professionnelle. Donc voilà ce qu'est PSE et quelle est sa mission. On est rarement confronté à ce type de situation, c'est à l'obligation, enfin c'est l'intervention d'urgence. Mais si on a quelqu'un qui crève de froid devant sa porte, la plupart des gens bougent, font quelque chose. Après, accueillir chez soi, oui, c'est un peu particulier. Bah, écoutez, tout le monde peut pas le faire et en même temps, il n'y a pas de mérite. Je dis, on a été aidé, hein, également financièrement ou en temps, par des amis ou des membres de la famille. Ils ne pouvaient pas s'engager au-delà, ils ne souhaitaient pas s'engager au-delà. Le fait qu'ils ne puissent pas n'augmente pas mes mérites. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Chez nous, dans notre religion, si quelqu'un t'aide, tu vas le remercier. D'abord, tu remercies Dieu de vous rencontrer. Tu le remercies aussi. Dans la vie, il ne faut pas être ce que ma maman me disait. Il ne faut pas être toujours ingrat. Si quelqu'un t'aide, il faut le reconnaître. Ce que je leur dis, je les remercie et puis que Dieu les paye. C'est ça.
Bon, le sort de tous ces migrants à Nantes, hein, ils étaient fraîchement arrivés, ils étaient dans la rue, exposés au froid, à la faim, ils vivaient dans des conditions d'hygiène plus précaires. Je dis, ça nous bousculait, ma femme et moi, mais en fait, on n'en faisait qu'un sujet de débat, rien de plus, quoi. Donc, bienveillant, c'était un mot, c'était pas plus que ça. Donc, en entrant dans notre vie, Thierno, il nous a forcés à agir. Bah, il nous a fait grandir, hein, il nous a fait grandir en bienveillance, en engagement, en tolérance. Tolérance, c'est l'acceptation de la différence, c'est de la patience. La rencontre de Thierno, c'est assume, vis, engage-toi, fais les choses. Hein. C'est pas dans un esprit militant, hein, c'est par rapport au sujet des migrants, hein, c'est un engagement pour une personne.
Je rêve d'avoir un métier très très assurant, dont je peux passer ma vie tranquillement. Et puis, le foot aussi, je vais jouer au foot aussi. Ça, je ne peux pas lâcher parce que j'ai aimé ça depuis tout petit. C'est ma passion, oui. Je veux travailler, surtout aider ma tante. Ce qu'elle est en train de vivre là-bas, c'est pas facile, elle est dans la galère. Je vais essayer de commencer à travailler, de l'aider pour qu'elle puisse en sortir aussi là-bas. Puis moi aussi, je fais ma vie tranquille. C'est ça que je veux.
Alors, on n'a pas le même rêve tous les deux. Il le sait. Moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'il rentre en Guinée avec une solide formation et qu'il puisse participer au développement de son pays. Que son pays, il l'aime. Il n'est pas parti parce qu'il ne l'aime pas. Donc, je trouverais un aboutissement. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le sien maintenant qu'il est là. Bah, écoutez, c'est pas que un métier. Hein. Ce que je lui souhaite de tout mon cœur, c'est de s'épanouir dans notre pays, si c'est là qu'il doit faire sa vie. Et donc, qu'est-ce que je serais content s'il peut s'épanouir dans son pays, en l'aidant à grandir. Voilà.
Vers Nantes, c'était très très difficile. Je suis parti par le Maroc de l'Algérie, j'étais avec mon oncle de l'Algérie, Maroc, au Maroc, Espagne, et puis Espagne qu'on est rentré, puis on est venu en France aussi. Quand je parle à mes amis, il y avait un de mes amis qui voulait dire qu'il va venir, je lui ai parlé, j'ai dit, faut pas essayer, c'est très très dangereux. Même en venant en Algérie, c'est pas, vous allez passer par le désert. Là-bas aussi, si tu viens au Maroc aussi, vous êtes dans la forêt. Je lui ai expliqué comment ça se passe. Je lui ai dit, dans la mer, c'est pas facile. Nous, on voulait mourir dans la mer. Je lui ai expliqué. J'ai dit, faut te concentrer. Tu es mon ami. Mais moi, si je commence à travailler ici, comme j'ai un bon cœur, on était ensemble, je peux essayer de t'aider un peu de l'argent. Toi aussi, tu fais un peu de commerce en Guinée. Faut pas venir pour traverser. J'ai dit, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. D'autres, même rentrant en Europe ici, sont un peu troublés dans leur tête. Parce que ce qu'ils ont vécu, c'est très très difficile. Et ils veulent devenir fous même. Il y a d'autres personnes, leur situation, c'est plus grave que moi. Parce qu'il y a d'autres qui font la prison. Peut-être il y a d'autres qui ont fait la prison en Algérie. Peut-être il y a d'autres qui ont fait la prison en Libye. Et puis s'ils sortent de la prison là-bas, ils traversent aussi. Peut-être ils ont eu d'autres difficultés. Tout le monde a son histoire.
On l'a emmené un jour au bord de la mer, il ne pouvait même pas regarder l'eau, quoi. Il ne pouvait pas s'approcher, ça lui a renvoyé des souvenirs. Aujourd'hui, il arrive à vivre avec ce voyage, je pense, c'est parce qu'on en a parlé, pas mal, beaucoup. Bon, moi, j'ai juste aidé un jeune tombé dans mon jardin. Bah, écoutez, je leur souhaite, ceux qui arrivent, de tomber dans les bons jardins pour recevoir de l'aide. Hein. Je suis bienveillant, donc je souhaite qu'on leur donne la possibilité de s'intégrer. La possibilité de s'intégrer, c'est l'éducation. Je parle pas des migrants qui arrivent avec un gros bagage, une formation. Je parle de ceux qui sont démunis. Comme Tierno, qui ont rêvé à un monde meilleur. Ce monde les attend pas, les accueille pas. Ils sont coupables de rien, quoi. Et ils se retrouvent là. Je souhaite qu'on leur donne la possibilité de s'intégrer. Je dis bien, c'est par l'éducation. Et puis, de leur côté, faut qu'ils fassent des efforts, hein, pour ça. Parce que, voilà, on n'a pas côtoyé beaucoup, mais quelques-uns, quand même, autour de Tierno, bah, Il y a des hyper combatifs qui ont vraiment envie de faire les choses et qui se donnent, et puis il y en a qui bougent pas, et donc faut qu'ils, voilà, aller à l'école, faut s'engager aussi à l'école, donc, mais je leur souhaite vraiment de trouver le chemin qui les intègre. Je pense qu'il y a beaucoup plus de jardins disponibles, puisqu'on est dans la métaphore du jardin, mais il y a plus de jardins disponibles qu'on ne l'imagine, quand on accueille un jeune comme ça, s'il n'y a pas des structures, je parle bien de l'école, hein, pour les accueillir, les former, c'est un combat presque impossible. Parce qu'on ne peut que nourrir, soigner, quoi. Nourrir, soigner, habiller, et ça, c'est même pas le début du chemin. Ça ne permet pas de parcourir le chemin.
Qu'est-ce qui me manque? D'abord, surtout, c'est ma tante, premièrement. Il y a la nourriture de chez nous, mes amis du quartier aussi, oui.
Ah ben, les familles qui sont restées au pays, ça c'est un truc compliqué, parce que les familles qui sont restées au pays, elles sont généralement cotisées pour financer le voyage, et elles sont très demandeuses de retour, et elles mettent une pression qui est lourde sur ces jeunes quand ils arrivent, et qui est quasiment immédiate, et il leur faut du temps pour se former, pour apprendre et pour s'intégrer. Donc les familles, s'il y avait un souhait, c'est d'abord attention, vous vous faites entuber, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs de rêves qui font de l'argent sur votre misère, et soyez vigilants. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas dire plus. Pour ce qui concerne le reste, je vais pas faire un cours d'histoire, mais les courants migratoires, enfin, depuis que l'homme existe, il y a toujours eu des mouvements. Enfin, des vrais Gaulois dans ce pays, il n'y en a pas, quoi. On est tous métissés, il y a eu les Visigoths, Ostrogoths et Ostrogoths, les Francs, voilà, des mouvements, il y en a toujours eu, et ceux qui ont froid et qui ont faim sont toujours allés là où il y avait moins de misère, c'était plus riche, ils faisaient meilleur. Et donc, on va, à moins de nucléariser les pays pauvres, on n'empêchera pas, on ne peut pas empêcher les courants migratoires. Une fois chez nous, où on fait des camps de concentration, et voilà, on crée de l'horreur, de la violence, et ça n'a pas de sens. Où on intègre, je reviens, c'est la formation. Je parle de ces jeunes qui arrivent sans formation, mais vraiment l'envie de s'impliquer, de travailler. Et puis, si on peut, aidons, comme pour un soin d'enfant, qui est une association française, aidons aussi à développer des moyens d'éducation dans ces pays qui sont très pauvres et qui ont une population excessivement jeune. Donc, c'est bien plus compliqué chez eux de développer de l'école et des systèmes de formation, parce que, voilà, c'est des pays où, je sais que le Cambodge, par exemple, la moitié de la population a moins de 25 ans. Si on veut aider ces pays, si on veut que, voilà, les gens se fixent, il faut les aider à développer de la formation. Au Cambodge, ben voilà, je suis tombé sur une association qui le fait. Et puis pour ceux qui arrivent chez nous, ben il faut voilà, il faut les former, quoi. Il faut les aider. Ben voilà, le non-militant a milité.